France Inter. Législative 2024. Le 7-10.
On débat ce matin sur une question simple. Où est passée l'écologie? Après les 5,5% obtenus par les écologistes aux européennes, en très fort recul par rapport à leurs résultats d'il y a 5 ans, la campagne législative voit le sujet totalement éclipsé. Et ce qui semblait jusque-là faire l'objet d'un consensus, pour le dire simplement, lutter contre le réchauffement climatique, est devenu un nouvel objet de clivage et de combat politique. Alors comment en est-on arrivé là? Comment le climato-scepticisme, le climato-relativisme ont-ils fait retour dans le paysage politique? On pose ces questions à Camille Etienne, militante écologiste, auteur de « Pour un soulèvement écologique, dépasser notre impuissance collective », livre publié aux éditions du Seuil, et avec Jean-Yves Dormagin, professeur de sciences politiques à l'Université de Montpellier et président fondateur du laboratoire d'opinion Cluster 17. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Et merci d'être à notre micro. Sondage Ipsos à 3 jours des européennes, le 7 juin dernier, seuls 9% des électeurs disent qu'ils voteront d'abord et avant tout pour la protection de l'environnement, contre 24% pour le pouvoir d'achat, 16% pour l'immigration. Campagne législative, écologie et environnement évaporés du débat, sauf à aller lire les programmes des différents partis, et ça on va y venir évidemment. La planète brûle et on regarde à nouveau ailleurs. Comment l'expliquez-vous, Camille Etienne?
Je pense qu'il faut analyser conjointement la montée du racisme et la montée du climato-scepticisme qui sont vraiment notoires. Pour une raison simple, c'est que la destruction de l'environnement, elle est racialement discriminée. Très concrètement, il y a tout un tas de catastrophes climatiques. Par exemple, au Tchad, d'un coup, il y a eu une malnutrition parce que le lac s'est asséché. Il y a eu des milliers de personnes qui sont déplacées en ce moment où on parle aux Philippines. Des Indiens qui meurent littéralement de chaud. Au Soudan, une sécheresse. Et en fait, ça passe sous la ligne de couleur. Donc, cette indifférence, cette presque climato-indifférence, elle s'explique aussi par la montée du racisme.
Et en France,
je pense que ce qui est très important de rappeler, c'est que on peut avoir un ras-le-bol de cette fameuse écologie, cette fantasmée écologie punitive, et on a le Rassemblement National qui s'est électoralement situé comme un paratonnerre à cette fantasmée écologie punitive. Alors que la vraie punition pour les Français dans un monde où le dérèglement climatique s'emballe, c'est d'avoir l'extrême droite au pouvoir.
Jean-Yves Dormagin, dans un article de la revue Le Grand Continent, vous évoquez la dimension identitaire désormais de la question écologique, notamment à l'extrême droite. Je vous cite, l'écologie ne constitue pas un enjeu idéologique autonome, mais au contraire, elle ne se comprend qu'en rapport à d'autres attitudes relevant de dimensions proprement identitaires. Rapport aux étrangers, à l'islam, aux identités sexuelles et de genre. Fin de citation. Expliquez-nous.
Oui, ce qu'on constate quand on fait des études sur le sujet, alors pas seulement d'ailleurs en France, on a fait les mêmes études en Espagne, les mêmes études en Allemagne, ce qu'on voit c'est qu'il y a une relation très forte entre les positions sur les enjeux écologiques et les positions sur d'autres clivages qui sont aujourd'hui parmi les plus fondamentaux, les plus structurants de nos sociétés. Et en particulier, vous les avez évoqués, le clivage identitaire, le clivage sur les migrants, sur l'immigration, sur la diversité culturelle, sur les enjeux de genre, sur les questions de société. Et en gros, on peut résumer les choses très simplement, et c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous les pays européens qu'on a étudiés. Plus vous êtes progressiste sur les questions sociétales, plus vous êtes ouvert à la diversité culturelle et plus vous êtes pro-écologie. Et à l'inverse, plus vous êtes identitaire, plus vous êtes conservateur sur les questions sociétales et plus vous êtes hostile aux politiques de transition, voire climato-sceptique.
Quel rapport ?
Alors, il y a deux explications possibles quand on observe un phénomène de ce type. C'est-à-dire, ça peut être juste une corrélation. C'est-à-dire que ce sont les mêmes individus qui sont porteurs de ces attitudes, donc ces attitudes qui fonctionnent ensemble. Il y a tout un tas de moyens ou d'explications possibles derrière ça. Et puis, il y a aussi peut-être des liens plus structurels, plus intégrés entre ces attitudes. C'est-à-dire que un certain conservatisme culturel peut aller de pair avec une remise en cause des travaux scientifiques, de même qu'un certain complotisme qui est très fort dans une partie de l'électorat du Rassemblement National, peut et une hostilité à la science, une méfiance envers les médias, une méfiance envers les experts, ça peut favoriser des attitudes climato-complotistes. Et l'idée que finalement, ce récit que nous présentent les scientifiques, relayé par les médias sur les enjeux climatiques, tout ça finalement, ce sont des fake news, c'est une vaste manipulation pour modifier nos modes de vie, pour nous imposer des contraintes, pour transformer notre manière de vivre, nos manières de fonctionner. Donc, vous voyez, ce sont des attitudes qui sont imbriquées et qui vont dans le même sens. C'est ça qui est important. Mmh. Ce qui explique pourquoi toutes les extrêmes droites aujourd'hui, à l'échelle mondiale, parce qu'on le voit bien aussi avec Donald Trump aux États-Unis, toutes les extrêmes droites prospèrent en activant ce clivage anti-écologique.
Comment recevez-vous ce que vient de dire Jean-Yves Dormagen, à savoir que l'écologie soit désormais intégrée à des combats identitaires, Camille Etienne?
C'est peut-être rappeler que, en effet, c'est pas seulement un impensé du Rassemblement National, l'écologie. C'est pas seulement une flemme, c'est pas seulement absent des programmes. C'est un parti qui est viscéralement anti-écologie et anti-écologiste. Si on regarde, et ce que j'ai fait, dans les 10 dernières années, toutes les mesures écologiques qui ont été votées au Parlement européen et à l'Assemblée nationale. Les députés Rassemblement National se sont systématiquement, mais je dis bien systématiquement, opposés. J'ai quelques exemples extrêmement concrets. La loi sur la restauration de la nature. L'idée, c'était de protéger 1% des écosystèmes 30% pardon, des écosystèmes endommagés, ils s'y sont opposés. La loi sur les polluants éternels, une question de santé publique, hein, protéger la santé publique des Français, ils s'y sont opposés. Même des mesures de justice environnementale, il y avait ce fameux fonds social pour la transition écologique pour faire en sorte que les Français puissent acheter des voitures ou rénover thermiquement leurs bâtiments, ils s'y sont opposés. Donc en fait, même sur des sujets qui paraissent apolitiques, par exemple la réduction des emballages plastiques ou même limiter la destruction des invendus, par exemple pour la fast fashion, ils s'y sont opposés. Donc il faut réaliser que c'est pas un impensé, c'est le climato-scepticisme au pouvoir. Et pour finir, il y a quelque chose qui me semble extrêmement grave ici, c'est que c'est un climato-scepticisme qui sert un projet, c'est celui du maintien d'un mode de vie basé sur les énergies fossiles. Il y a un chercheur qui s'appelle Antoine Dubiot qui parle de carbofascisme. C'est la jonction des intérêts de l'extrême droite et de l'industrie fossile qui ont trouvé là leur meilleur allié pour gagner du temps, pour continuer cette extraction des hydrocarbures et pendant ce temps faire perdre du temps extrêmement précieux aux Français.
Quand on regarde une autre enquête, l'enquête Fracture française d'Ipsos Soprasteria en 2023, publiée dans Le Monde, seuls 48% des électeurs du Rassemblement National estiment que le réchauffement climatique est principalement dû à l'activité humaine. 57% pour le camp Macronie, 74% chez les électeurs socialistes et près de 80% chez les écologistes. Est-ce que le programme écologique du RN est dicté par cette sociologie, Jean-Yves Dormagen? Est-ce que le RN se cale tout simplement sur ce que pensent ses électeurs?
Oui, d'une certaine manière, oui. C'est-à-dire, on a bien vu qu'il y avait une relation entre la montée de ce climato-scepticisme, de ce que j'appelle moi le climato-relativisme aussi, hein, on en fait trop, on trouvera un jour des solutions, pour appeler ça aussi le climato-je m'en foutisme, enfin l'idée qu'en gros on nous embête un peu on exagère, quoi. C'est-à-dire on exagère, on en fait trop. Il y a une relation, on la voit, entre la progression dans la société de ce backlash écologique, hein, de ce retour de bâton anti-écologique, qui est lié au fait que on entre dans des politiques de transition écologique, tout simplement, parce
on entre dans le dur du sujet
qu'il n'y a pas, personne n'est contre la nature par principe. Personne ne souhaite le dérèglement climatique. La question commence quand il s'agit de mener des politiques, de changer la société, de changer nos comportements, nos modes de vie. C'est là qu'il commence à y avoir des résistances. Et effectivement, ces résistances se sont développées, je le disais il y a un instant, dans l'espace politique du Rassemblement National. Les clivages se sont superposés. Et quand le Rassemblement National, avec un peu de retard d'ailleurs, s'en est aperçu, il s'est emparé de ce sujet pour prospérer. Et pour prospérer en particulier sur l'ancien électorat de la droite. Parce que ce qu'il faut comprendre, si on veut comprendre la dynamique électorale en cours, c'est que le climato-scepticisme et le climato-relativisme sont encore plus forts dans ce qu'était l'ancien électorat des Républicains ou de l'UMP à une époque, en gros l'électorat Sarkozy, en particulier un électorat un peu âgé, assez conservateur, vivant plutôt dans les mondes ruraux. Cet électorat-là, qui est encore plus climato-sceptique que l'électorat originel du Rassemblement National a basculé vers le Rassemblement National, entre autres sur ce clivage. Donc le Rassemblement National a compris, oui, l'opposition aux éoliennes, par exemple, dont le Rassemblement National a fait l'un de ses marqueurs, en particulier dans les mondes ruraux, la défense des voitures thermiques, qui sont devenues l'un des principaux sujets de la dernière campagne des élections européennes, pour ou contre l'interdiction des moteurs thermiques à l'horizon 2035. Sur tous ces sujets-là, le Rassemblement National a capté la résistance d'une partie de la population à ces politiques de transition pour prospérer sur le plan électoral. Donc oui, c'est plutôt dans un deuxième temps qu'il s'est clairement et positionné sur ces sujets et qu'il annonce aujourd'hui qu'il veut détruire le Green Deal. C'est-à-dire que l'un des objectifs aujourd'hui des droites conservatrices et des droites identitaires européennes, c'est la remise en cause et l'annulation du pacte vert, du Green Deal européen, c'est très important.
Camille Etienne, quelle est la responsabilité des écologistes dans la situation politique qu'on décrit ? Pourquoi ne mobilisent-ils pas plus ? Pourquoi 5,5% aux européennes alors que la planète brûle, je le redis ? Pourquoi le mouvement que vient de décrire Jean-Yves Dormagin n'est pas enrayé à gauche ?
Je ne sais pas si l'heure... Là, on est à 2 semaines d'un scrutin qui va être historique, même pas à 1 semaine, d'un scrutin qui va être historique pour la France. Donc je ne sais pas si l'heure essaie de pointer les coupables. Peut-être qu'on aurait pu trouver et incarner une écologie puissante. L'idée de rappeler qu'en fait, pour des questions géopolitiques, pour des questions d'indépendance énergétique, pour des questions de droits humains, le choix écologique est le seul choix vers la paix et vers la liberté. Peut-être qu'on n'a pas réussi à incarner ça. Mais la vraie question maintenant, c'est de rappeler aux auditeurs que partout où l'extrême droite gouverne aujourd'hui dans le monde, c'est un massacre environnemental. Bolsonaro, c'est x2 de la déforestation en 2 ans. Trump, c'est directement, dès la première semaine au pouvoir, hein, c'est pas seulement en impensé, dès la première semaine au pouvoir, c'est l'acceptation de 2 pipelines énormes qui étaient extrêmement controversés. En Espagne, là où il y avait des feux qui étaient historiques, pendant cette semaine des feux historiques, ils ont décidé de faire quoi ? Ils ont décidé de supprimer les zones à faible émission. Donc, pour finir, là aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit ? On vit, au moment où je vous parle, dans les écrins, à côté de chez mon père, des gens qui sont élitroyés par leur toit parce qu'il y a des inondations. Donc c'est pas demain. Donc les gens qu'on va choisir pendant les 3 prochaines années, ils vont concrètement savoir si oui ou non on va pouvoir rester dans les 1,5 degrés. Si oui ou non on va pouvoir faire en sorte que les Français ne se prennent pas en pleine face les conséquences du dérèglement climatique. Donc c'est pas un petit choix. Le RN ne nous sauvera de rien. Il va simplement criminaliser la possibilité de s'en sortir. Et pour finir, partout où l'extrême droite est au pouvoir, c'est aussi des endroits où les activistes écologiques sont bâillonnés, empêchés de se battre. Donc personne ne pourra nous sauver du Rassemblement National sous le Rassemblement National.
Dès lors qu'il y a clivage politique, il y a un espace pour la gauche, Jean-Yves Dormagin, sur le sujet.
Absolument. D'ailleurs, les clivages ne sont pas forcément une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire que le fait que l'écologie devienne clivante signifie aussi qu'elle devient plus centrale. Auparavant, elle bénéficiait d'une sorte de consensus mou, mais c'était un consensus mou un peu d'indifférence. Donc c'est la progression, d'une certaine manière, de l'enjeu écologique, c'est aussi le fait que l'on commence à mettre en œuvre des politiques écologiques qui produisent du clivage. Et c'est pas forcément une mauvaise nouvelle, d'autant plus que, si on regarde la manière dont s'organisent les électeurs sur ce clivage, la gauche n'est pas en difficulté. C'est un des sujets, autant, vous voyez, sur un sujet comme l'immigration, c'est compliqué pour la gauche parce qu'elle est minoritaire dans la société. Mais sur l'écologie, elle est majoritaire dans la société, et en plus, et ça c'est très important pour les élections à venir, en plus, il y a un relatif consensus aussi sur l'espace modéré, l'espace centriste, qui va être très important parce que c'est lui qui va arbitrer le second tour de ces élections. Donc effectivement, la gauche a tout intérêt aujourd'hui, du point de vue stratégique, elle a tout intérêt à mettre en avant l'enjeu écologique et à rappeler ce qui a été dit, c'est-à-dire que cette élection est capitale en matière de politique de transition.
Merci à tous les deux, Jean-Yves Dormagin qui avait la parole à l'instant et Camille Etienne, merci.